France Inter, le 6-9 du week-end, Éric Delvaux.
Bonjour Michel Fize.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et écrivain, vous avez publié pas mal de livres, beaucoup sur la jeunesse, la famille aussi, et votre dernier pamphlet a pour titre « L'école à la ramasse, l'éducation nationale est en faillite », ça paraît aux éditions de l'Archipel, l'éducation nationale qui donc à vos yeux n'est plus en crise mais bien en faillite, dites-vous. Quand il s'agit d'une entreprise, la faillite, soit l'entreprise on la liquide, soit on fait table rase et on reconstruit, c'est la solution, cette deuxième solution que vous proposez. Mais avant de parler des perspectives pour l'école, un mot d'abord sur votre constat. On parlait d'entreprise à l'instant, vous dénoncez désormais des chefs d'établissement devenus des chefs d'entreprise. À l'école, ça se vérifie comment ?
Ça se vérifie par le fait que le chef d'établissement ne dispose pas des pouvoirs normalement attribués à un chef d'entreprise classique, hein, un pouvoir d'autorité, un pouvoir d'organisation, donc un pouvoir de fixer des directions et surtout une emprise sur le personnel. Hein, le personnel ne dépend pas du chef d'établissement.
Oui,
donc c'est une sorte de médiateur qui distribue les rôles, voilà, mais qui n'a pas véritablement autorité sur ce qui est devenu une entreprise.
Avec de plus en plus de professeurs, en tout cas pas mal de professeurs, qui dénoncent notamment des affectations gérées par l'académie de façon déshumanisée. C'est cette verticalité sûrement un peu brutale pour les professeurs que vous associez au monde de l'entreprise ?
L'école française demeure une institution. Même moribonde, comme je l'explique.
D'ailleurs, c'est parce que c'est une institution qu'elle ne meurt pas complètement, c'est ce
absolument
que vous écrivez.
Absolument, voilà. Donc elle tient debout parce que c'est une verticalité, c'est une hiérarchie, c'est des rôles distribués qui sont acceptés par les uns et les autres, même si beaucoup, dans leur fonction, peinent, hein, et notamment les professeurs. Alors, voilà, prenons un exemple. On va augmenter les rémunérations des enseignants. Bon, je dirais que c'est un simple rattrapage. J'allais presque dire c'est la moindre des choses.
Voilà. Mais c'est pas énorme en plus, 300 euros par an.
En moyenne, hein, pour
et c'est en moyenne, voilà. Mais en quoi ça va changer le rôle de l'enseignant, hein? En quoi on va voir disparaître ce à quoi il est réduit la plupart du temps, c'est-à-dire d'abord à faire de la discipline, hein, avant de transmettre une matière. Donc c'est bien pour ça que je dis qu'il faut réorganiser cette école, voilà, et non pas changer l'école comme le fait Monsieur Blanquer, avec beaucoup d'ailleurs d'audace, même d'imagination, sur un certain nombre de réformes annoncées.
On en parlera voilà. un peu
Mais
plus tard.
Mais il faut changer d'école. Donc c'est bien d'une table rase qu'il faut réaliser aujourd'hui.
Cette mutation des chefs d'établissement en chefs d'entreprise, ça date de quand précisément ? Avec qui ?
Je pense
ça date
que...
d'une quarantaine d'années ou ça date
oui,
d'il y a...
je crois que tous nos maux viennent de la démocratisation qui a été confondue avec la massification, c'est-à-dire qu'on a pensé que avec une entrée massive de nouveaux pensionnaires de l'école, les choses allaient perdurer comme avant. C'est-à-dire qu'auparavant, le chef d'établissement, il avait une autorité, une légitimité reconnue. Même s'il n'avait pas les pouvoirs du chef d'entreprise d'aujourd'hui, bon, il avait une emprise sur son équipe éducative.
Mais vous êtes en train de dire que les cadres à l'école n'ont plus de légitimité au regard des élèves ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que la crise de l'école, comme on l'a longtemps nommé, c'est d'abord une crise de légitimité. Hein, c'est-à-dire, les enseignants peuvent très bien se demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Et les élèves, mais à quoi je sers dans cette institution?
Mais Michel Fize, on se dit à vous lire que dès le départ, le verre était dans le fruit. C'est-à-dire que l'école de Jules Ferry a été mythifiée, en fait, très très vite. Et qu'au fond, elle n'a jamais vraiment fonctionné comme elle aurait dû le faire.
Alors, elle n'a jamais vraiment fonctionné.
À vous lire, hein,
voilà.
Je dis
mais
pas
paradoxalement, elle est toujours en place. C'est-à-dire que l'école reste avec cette verticalité, elle reste avec le principe de la salle de classe. Alors, on a fait disparaître l'estrade, mais on est toujours dans un face-à-face entre celui qui est seul l'enseignant et puis donc le groupe des élèves. Alors d'ailleurs, si j'étais Monsieur Blanquer ou si j'étais conseiller de Monsieur Blanquer, je lui suggérerais une réforme supplémentaire. On parle du dédoublement des classes de CE1 et CP.
Voilà, oui, voilà pour avoir moins d'élèves dans les classes et donc plus de profs pour y répondre.
Mais paradoxalement, c'est peut-être pas là qu'on a le plus besoin d'être en petit comité. Moi, je pense qu'il faudrait des classes de 12 élèves en quatrième et en troisième. C'est-à-dire à un moment où les adolescents ont le plus besoin d'autonomie, ont le plus besoin de faire partager leurs idées, hein, leurs sentiments. Voilà. Et c'est peut-être l'âge qui permettrait de développer davantage le sens critique.
Alors dans votre livre, Michel Fize, l'école à la ramasse, hein, vous brossez un tableau très sévère donc de cette éducation nationale avec des enseignants, dites-vous, mal formés, réduits à de simples distributeurs de matières indigestes devant des élèves qui s'ennuient quand ils ne perturbent pas la classe. Alors évidemment, sans nier que cela puisse exister, et ça existe, ce que vous décrivez, n'êtes-vous pas cependant en train de, à minima, de voir toujours le verre à moitié vide ou au pire, de tomber un peu dans la caricature ?
Alors d'abord, il y a une très grande difficulté à parler de cette question, pour la raison suivante. L'école demeure un tabou en France. C'est probablement d'ailleurs l'un des derniers tabous.
Un tabou auprès de qui ?
Auprès de l'ensemble de la population. C'est-à-dire tout le monde est derrière cette idée que l'école, c'est magnifique, c'est le temple du savoir, c'est le sanctuaire. Voilà. Donc, il n'y a plus d'interrogation sur l'école. Moi, je me souviens d'une période, les années 60, les années 70, vous aviez toute une littérature sur l'école capitaliste, l'école de la reproduction, l'école du peuple. Voilà. Aujourd'hui, disons, la frange politique qui était dans l'observation, la critique, la réforme, elle a baissé également les bras. Il n'y a plus de pensée sur l'école. Voilà. Donc, on est dans de la gouvernance.
Il n'y a plus de pensée, mais il y a des réformes tous les ans.
Voilà. Oui, mais plus on réforme, moins ça change. Et moins on va à l'essentiel. Parce que l'essentiel, et je pense que c'est par là que Monsieur Blanquer aurait dû commencer, même s'il a quand même de bonnes intuitions, ça tombe de sujet, mais la première question c'est, mais à quoi sert l'école aujourd'hui ?
Mais justement, à quoi elle sert ? Elle doit être instructive ou éducative d'abord ? Vous citez d'ailleurs Condorcet qui disait que l'éducation était l'affaire des familles. Est-ce que ça reste l'affaire des familles aujourd'hui, ou est-ce que ça l'est plus ? Quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut des petits groupes en quatrième, en troisième, quand on est en train de devenir vraiment un homme ou une femme, enfin un jeune homme, une jeune fille. Donc là, on se dit que ça doit être plus éducatif qu'instructif.
Oui, alors pour le moment, le scénario est inchangé depuis Jules Ferry. L'école transmet des connaissances dont j'ai rappelé qu'elles étaient pour beaucoup indigestes, hein, et mériteraient d'être recomposées à la lumière des réalités que vivent notamment les élèves.
Bah vous dites qu'il faudrait déjà commencer par la langue française.
Ah, là,
bon, c'est une parenthèse. Mais bon.
Oui, mais c'est une parenthèse forte parce que c'est une réalité qui est complètement niée.
On veut remettre la dictée à tous les étages de la scolarité.
C'est pas uniquement une affaire de dictée, c'est toute la langue qui est touchée dans toutes ses dimensions, de l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la compréhension des mots, voilà. Et chaque jour apporte son lot, je dirais, d'atteinte à la langue française, qui est quand même le support de la culture. Alors, du côté des élèves, les élèves sont réduits à être des bachoteurs, c'est-à-dire des radoteurs. C'est-à-dire on leur fait ingurgiter des matières.
Apprendre sans comprendre.
Jean Jaurès, en 1890, appelait déjà à une réforme du bac. Alors je reviens d'ailleurs sur ma définition de l'école. L'école est un tabou, voilà, hein, et un totem. Le totem, c'est quoi ?
On y touche
pas. Le totem, c'est le bac. Donc on touche pas au bac.
Et pourtant, il y a une réforme du bac en ce moment, avec notamment un contrôle continu pour au moins la moitié des notes. Ça va dans le bon sens, ça ?
Ah oui. Là, voilà l'exemple même d'une réforme qui me paraît être une réforme progressiste, si on veut bien admettre qu'encore une fois, l'évaluation ne saurait se résumer à une somme de notes. Voilà. Donc, il faudra qu'on m'explique en quoi le contrôle continu serait un mode d'évaluation moins objectif que le baccalauréat, d'ailleurs qui existe dans de multiples dimensions. À qui va-t-on faire croire que quand on est un bachelier en section professionnelle d'une cité en difficulté, c'est la même situation que le bachelier en série S à Louis Grand, Louis le Grand ou Henri IV. Voilà. Donc la discrimination des bacheliers, elle est déjà existante. Mais donc, par exemple, en quoi les spécialités que introduit Monsieur Blanquer sont plus discriminantes que les filières? Là, je comprends pas très bien. Vous savez, le problème en France, c'est que on peut poser de bonnes mesures, mais aussitôt on va dire ah oui, mais ça va être compliqué à s'appliquer, ou même ça va pas s'appliquer dans le bon sens. Voilà. Alors du coup, la bonne mesure devient une mauvaise mesure. Voilà. Mais l'introduction du contrôle continu, qui avait d'ailleurs fait chuter Monsieur Fillon en 2005, hein, puisqu'il avait tenté le malheureux 10%. Ça a été une levée de bouclier.
Là, on serait à 40%.
Enfin... Voilà. Et là, on est à 40%. Donc, je dis, c'est un bon pas, Monsieur Blanquer. Il faut arriver à 100%.
Rappelez-vous, en décembre dernier, Michel Fize, deux mois après les Gilets jaunes, des professeurs, syndiqués ou non, d'ailleurs, ont lancé les stylos rouges, hein, qui se sont fait pas mal entendre au moment de corriger les épreuves du bac il y a quelques semaines. Quel parallèle, le sociologue que vous êtes, fait-il entre les deux mouvements de contestation, Gilets jaunes, stylos rouges?
Oh bien, ça fait partie de ces convergences qui ne se sont pas concrétisées sur le terrain, hein, mais on pourrait ajouter évidemment les urgentistes pour les hôpitaux, les paysans qui ne font pas beaucoup parler d'eux, les habitants des banlieues.
Mais ça veut dire que les syndicats de l'enseignement ne sont plus les relais pour ces populations-là, pour ces métiers-là.
Vous savez, j'ai connu probablement comme vous la grande époque syndicale de l'éducation nationale, hein, cette grande machine qu'on appelait la FEN. Hein, Fédération d'éducation nationale, voilà, qui était accusée de co-diriger l'éducation nationale. Je pense que l'école, comme les autres corps de métier, ont besoin de relais intermédiaires puissants, hein, pour effectivement être dans la concertation, le dialogue avec les autorités, quelles qu'elles soient.
Mais quand vous parlez d'école, on parle de collège, on parle de lycée, mais il faudrait commencer par l'école élémentaire, parce que celle-là, on en parle moins, finalement.
Ben, je pense qu'on commence bien. L'école française, avec la maternelle, qui est d'ailleurs une distinction dans le monde, on commence bien parce que on apprend aux élèves à travailler ensemble, hein, on leur éveille l'esprit, et puis, patatrac, ils rentrent au collège, là où ils ont besoin plus encore d'autonomie qu'auparavant, on leur dit, ben maintenant, hein, tous en rang, vous écoutez, voilà, et donc à un âge où, encore une fois, on a besoin de bouger. Vous savez, la culture adolescente du collège et la culture scolaire sont radicalement opposées. En classe, on ne parle pas. Dans la culture adolescente, on parle. En classe, on doit être immobile. Ailleurs, on est toujours dans le mouvement.
Bah ça s'appelle etc. l'apprentissage. On n'est pas forcément ce qu'on doit être toujours à chaque instant.
Non, mais il faut des apprentissages utiles, des apprentissages qui servent à quelque chose, qui soient pas pénalisants pour le principe d'être pénalisant. Hein, l'école doit faire grandir. Vous savez, je pense que les questions de fond, elles sont simples, mais c'est pas là qu'il faudrait commencer. Bon, que faut-il enseigner? Qu'est-ce qu'un élève aujourd'hui a besoin de connaître pour vivre dans ce monde compliqué?
Et votre réponse à votre question, puisque voilà. Vous faites les réponses et les questions, oui. Quelle est votre réponse à ça? Qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui en priorité?
La culture générale, non? Alors, on peut vous en parler dans votre livre.
Alors je pense qu'il faut d'abord, d'urgence, réenseigner la langue française. Voilà. Hein, je pense qu'effectivement, la langue française ne peut pas se réduire progressivement à la langue texto. Voilà, ce qu'elle devient de plus en plus. Voilà. Donc, sans
la langue
texto
en train de devenir la langue officielle pour les jeunes.
Mais pas que pour les jeunes. Hein.
D'abord par les jeunes, ensuite ça.
Oui, mais quand vous
ça infuse, mais ça passe.
Vous savez, quand vous écrivez un texto et moi le premier, hein, qui vous l'écrivez, KI,
non,
vous l'écrivez C.
Non, pas nous.
Bon, alors là, c'est un petit peu de mauvaise foi, peut-être.
Non, je vous le dis.
Ce samedi matin. Non, beaucoup le font et beaucoup d'adultes, oui. Parce que c'est le principe même du texto.
Donc hein, la langue, la culture générale, le français. Qu'est-ce que vous mettez en priorité dans l'éducation également pour les élèves?
Alors, je pense qu'il faut évidemment des rudiments de mathématiques, hein, parce qu'on est quand même dans un monde technique, technologique, numérique. Hein. Il faut des rudiments numériques, hein, puisqu'on est aussi, et les adolescents et les élèves d'une manière générale sont plongés dans le monde numérique. Voilà. Mais il faut surtout les matières, ou plus exactement des connaissances qui aident à connaître le fonctionnement social. Pourquoi y a-t-il eu une révolte des jeunes pour le climat à l'extérieur de l'école? Ben parce que elle n'a pas pu avoir lieu, cette réflexion,
au sein de l'école.
Ce que M. Blanquer, d'ailleurs, a très très bien compris, hein, en dessinant une école où ces questions... Les questions de société sont des questions scolaires, sont même les questions majeures.
Alors ça, c'est pour votre réforme, vaste réforme de fond, mais dans la forme, vous dénoncez donc une éducation nationale, à vos yeux, bientôt bien trop verticale. Comment est-ce que vous remettez un peu d'horizontalité, voire de plus horizontale.
Oui, bah d'abord...
Transversalité,
je vous remercie, j'étais à la peine.
Bah, d'abord, c'est la question de la formation des enseignants. On dit il faut les former mieux, mais les former à quoi? Je pense qu'il faut les former à être des guides, hein, des sortes de tuteurs, plus que des espèces de personnages qui vont imposer brutalement leur matière. Il y a d'ailleurs des expériences, ce que je cite dans le livre, la classe inversée.
C'est-à-dire
la classe inversée. Bah, c'est-à-dire que vous apprenez votre leçon sur Internet, voilà, et l'enseignant ensuite à l'école corrige. Hein, les éventuelles erreurs de compréhension par rapport... voilà. Et tout ça avec aussi l'idée qu'on pourrait très très bien se passer de la salle de classe. Parce que quand même, l'emblème de la verticalité, c'est la salle de classe.
Donc
même
vous faites cours où alors?
Où est-ce que vous faites cours alors? Où est-ce que vous faites cours?
D'abord, il y a cette classe inversée, on peut faire cours chez soi, hein, donc on est chez soi face à l'ordinateur, avec évidemment un environnement...
Pour apprendre les relations avec les autres, c'est un peu juste, non?
Vous savez, les élèves n'ont pas besoin de l'école pour avoir des relations entre eux, quand même.
Michel Fy, vous allez encore plus loin dans la réforme. Vous voulez en finir avec ce que vous appelez le système désuet primaire, secondaire, supérieur. Vous remplacez tout ça par quoi?
Alors d'abord, il faut tenir compte des âges. L'adolescence commençant plus tôt vient brouiller déjà la première distinction entre primaire et secondaire. Hein. On n'attend pas le collège aujourd'hui pour être adolescent. Hein. À 8 ans, en CE2, vous commencez à être un jeune adolescent, comme je l'ai écrit dans d'autres livres. Donc par exemple, l'idée de mêler le CM2 et la 6e, ça c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. D'abord, ça évite le choc que ressent l'élève du CM2 qui était dans une, évidemment, stature de grand, le grand du primaire, qui redevient brutalement le petit.
Donc en fait, ce sont des classes multiples, il y a à la fois des CM2, des 6e, et puis plus tard, dans une même classe, vous mettez des tranches d'âge différentes, c'est un peu ça votre système?
Oui, et puis tenir mieux compte des niveaux des uns et des autres. Il y en a qui peinent dans certaines classes, il y en a d'autres qui s'ennuient parce qu'ils sont très très en avance.
Et un élève doit plus s'appeler un élève, c'est ça? Puisqu'on parlait de langue française.
Je pense que derrière l'élève, comme derrière l'enseignant, il y a d'abord des personnes avec des besoins
spécifiques.
Il y avait
le maître à l'époque, on appelle le professeur maintenant. À l'époque, c'était le maître. C'est un bon changement d'avoir changé professeur pour
D'ailleurs, le professeur qu'on appelle plutôt le prof.
Et même le prof.
Raccourci. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a quand même dégringolé de l'école d'autrefois.
Eh bien, on lira tout cela, votre constat et vos propositions, vos perspectives. Vous les avez envoyées au ministre Blanquer ou à
l'exécutif? Oui, il a reçu.
Et vous avez eu un retour?
Alors, pas encore. Hein. Je vais même adresser une lettre ouverte le site Atlantico,
pour ne pas le
nommer.
Lettre ouverte au ministre Blanquer. Merci beaucoup Michel Fize. Je rappelle le titre de ce livre, L'école à la ramasse, donc paru aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup d'être venu à France
Merci
Inter.
Merci à vous.
Et bonne journée.